soir. Donc, ce soir, à la Tour d'Aigle, Marcus Malte, il va être question de votre bibliothèque idéale. Présentons rapidement votre propre partition. Alors, vous expliquez parfois que vous travaillez vos textes comme une mélodie, ce qui me permet de rappeler que vous avez été pianiste dans un groupe de jazz. À ceux que peuvent étonner l'éclectisme de votre bibliothèque idéale, répondons que vous aimez la profondeur de champ et soulignons au passage qu'avant de vous consacrer pleinement à la littérature, vous avez été responsable d'une salle de cinéma à la Seyne-sur-Mer, votre ville. Mais bien entendu, un auteur ne se résume pas à sa biographie, d'autant plus lorsqu'il refuse de se laisser classer dans une petite case. Repéré dans l'univers du polar, consacré avec notamment Garden of Love comme auteur de romans noirs, vous explorez depuis longtemps les genres et les écritures. Vous avez publié 12 romans, sans compter de nombreux livres jeunesse et nouvelles. Avec Le Garçon, par exemple, couronné par un féminin, vous avez signé un roman d'apprentissage à l'orée du siècle dernier. Qui se souviendra de Filigeau, votre dernière publication est un grand roman sur l'Amérique, la vérité, le mensonge, les coulisses peu reluisantes du capitalisme. Vous offrez à celles et ceux qui s'y plongent un tout aussi grand plaisir de lecture. Alors, quand il faut, comme ça, quand il faut choisir quatre romans pour définir sa bibliothèque idéale, c'est un exercice qui est compliqué.
Oui, c'est compliqué parce que un certain nombre de livres qui m'ont marqué dans ma vie et d'auteurs qui m'ont marqué. Bon, j'ai choisi ces quatre-là. C'est vrai que pour moi, pour parler un peu plus généralement, ce sont quatre auteurs qui sont au sommet de la littérature.
Alors, prenons-en un,
Ouais.
Cormac McCarthy, qui est sur ces quatre auteurs là, de votre bibliothèque idéale, le seul auteur étranger.
Non. Albert Cohen est suisse.
Bien vu.
Oui, c'est vrai, on a souvent tendance à le voir français, mais il est suisse en
D'accord.
réalité.
Mais bon, il n'a pas été traduit.
Non. Oui, sinon, c'est un auteur, Cormac McCarthy, américain. Alors, par contre, c'est le plus jeune de tous les auteurs, parce qu'il y a un point commun aussi dans ces auteurs, c'est qu'ils sont à peu près tous de la même époque, si on regarde bien. Je m'en suis rendu compte après. Nabokov et Giono, ils sont nés exactement la même année, en 1895. Ils sont morts en 70 et en 80, donc à peu près, voilà, ils sont vraiment contemporains, quoi. Cohen, pareil, il est né juste avant le début du XXe siècle et il est mort voilà, au cours du XXe siècle, donc c'est aussi à peu près contemporain. McCarthy, il est un peu plus jeune, si on peut dire. Il est né en 33. Il est mort cette année, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, à 90 ans. Donc. Et il a sorti deux romans d'ailleurs cette année. Ses deux derniers romans, Avant de mourir, qui ne sont pas ceux que je préfère, mais qui sont quand même. Avec ce genre de mec, en fait, que ce soit les quatre là, ça va du très bon au génial, quoi, en gros. Donc en dessous, il n'y a pas. Ouais, c'est ça la différence, quoi. Il y a beaucoup de bons romans, il y a très peu de ce que moi je considère comme des chefs-d'œuvre, enfin à mes yeux. Et ces quatre-là, dans leur genre, c'est quatre chefs-d'œuvre.
Alors, il y a les auteurs, mais il y a aussi le choix du roman, parce que alors, McCarthy, on connaît
Alors,
Route,
ça a été
hein, voilà.
compliqué aussi,
Pourquoi
rien,
celui-là, hein? Alors,
parce
si
que
on
je
prend
pense que
McCarthy,
c'est
Méridien 200.
effectivement celui qui m'a le plus marqué. McCarthy, déjà, il n'en a pas écrit 50 des romans. En 50 ans de carrière ou plus, ou 60 ans de carrière, il a dû écrire même pas 10 romans. Donc, il prend son temps. Et effectivement, il y a plusieurs de ses romans, je les ai tous lus. Il y a plusieurs de ses romans qui m'ont scotché, quoi. Méridien de sang, peut-être en particulier. Pourquoi? Alors, comme je t'ai dit, je vais pas faire une explication de texte. Moi, j'ai énormément de mal à dire pourquoi j'aime un livre ou pourquoi j'aime pas d'ailleurs aussi. C'est un truc comme ça, quoi. Il y a des romans qui te parlent, quoi. Ces romans-là, j'ai l'impression qu'ils ont été écrits pour moi, quoi. Non seulement qu'ils ont été écrits pour moi, c'est des romans que j'aurais aimé écrire. surtout.
Et c'est une lecture qui arrive tôt ou pas? Parce que quand il est publié, vous avez 21 ans, quand il est traduit 21 ans, 18 ans, je crois, publié, alors, j'ai regardé, je me suis amusé à faire ce petit calcul. Ou alors, vous êtes déjà écrivain quand
Ouais, je suis déjà écrivain, je ne me rappelle plus exactement quand la première fois j'ai lu McCarthy. Par contre, je me rappelle comment ça s'est passé. Je me rappelle très bien que le premier... J'avais jamais entendu parler de McCarthy, j'avais entendu parler d'aucun de ses romans, ni rien. Et j'étais dans une librairie, à la librairie Charlemagne, à Toulon, je me rappelle très bien. Et je ne sais pas pourquoi, je regarde les bouquins, puis je tombe sur un bouquin de Cormac McCarthy, qui n'était pas celui-ci, qui était Sutry. J'ai une espèce de flair pour les romans. Non, mais c'est vrai, je me trompe assez rarement, en fait. Pour beaucoup de choses, je me plante tout le temps, mais pour les romans, j'ai une espèce de flair, c'est-à-dire il est rare que quand je choisis un roman, il est rare que je choisisse quelque chose qui ne me plaise pas. Et donc, je prends ce roman, donc j'achète ce roman, Sutry, je le ramène chez moi, je le pose dans ma bibliothèque, et pendant 5 ans, j'y touche pas. De temps en temps, je regarde, je lis une phrase ou deux, c'est pas encore le moment. Quoi. Et puis un jour, c'est le moment. Et donc je lis Sutry de McCarthy. Et une fois que j'ai lu Sutry, je suis retourné à la librairie et j'ai commandé tous les livres de McCarthy. Ouais. Et donc voilà, j'ai commencé à lire les autres bouquins de McCarthy. Et voilà, Méridien de sang, c'est un de ceux qui m'ont foudroyé, quoi. C'est ce genre de livre, à la fin, je me dis putain, quoi. Putain. Voilà, ça c'est, excusez-moi, je suis un peu... Mais quand je dis ça, c'est que vraiment, c'est... Voilà.
Alors bon, on a toujours envie de faire des passerelles entre... c'est le jeu, mais... pour ceux qui ont lu le garçon, on se demande si
oui.
Le garçon est, enfin, le gamin.
Le garçon doit certainement beaucoup à ce bouquin de McCarthy, entre autres. Il doit beaucoup à beaucoup de gens et à beaucoup d'auteurs, mais effectivement. Alors que, honnêtement, j'y ai pas du tout pensé en l'écrivant.
Oui.
Mais après, en y réfléchissant un peu, le lien est évident. C'est un gamin de 14 ans, effectivement, qui part sur la route comme ça. Qui va, c'est pas du tout la même histoire, c'est pas du tout le même contexte, il y a plein de choses très différentes, mais oui, il y a un esprit, ne serait-ce que au moins dans le début du roman, sur cet aspect sauvage, cet aspect initiatique, comme tu disais tout à l'heure.
Les deux sont en quête d'humanité. Hein,
ouais, d'une certaine manière, sauf que bon.
Oui.
On ne sait pas trop si c'est l'humanité qui va trouver.
C'est ça. Et le gamin va prendre plus cher, hein, si, pour le dire comme ça.
Effectivement, donc c'est un roman, c'est une histoire qui se passe, en gros, qui commence au milieu du 19e siècle, dans les années 1850. Donc c'est dans l'ouest des États-Unis, la plus grande partie. Là, on le voit, c'est le tout début. Il part de chez lui à 14 ans, il commence à prendre la route et on va le suivre dans ses pérégrinations où il va se retrouver dans les confins du Texas, du Mexique, etc., dans cette zone-là. C'est le moment un peu de la guerre entre Mexicains, États-Unis, Texas, il y a tout un mélange là. Et voilà, et on va suivre les aventures de ce gamin. C'est un Far West, hein. C'est le Far West, c'est un western, je voulais dire. Moi, j'aime beaucoup les westerns en général. Là, d'une certaine manière, on est dedans, puisqu'il y a, il y a, il va se retrouver dans une bande de je ne sais pas comment dire, de tueurs, quoi, en gros, hein. Qui est payé au départ par le gouvernement mexicain pour tuer les Apaches. Et donc, ils ont des primes. À chaque fois qu'ils ramènent un scalp d'Apache, ils ont des primes, ils sont payés comme ça. Et donc, on voit toute la folie de ces... Ce sont des anciens... c'est des espèces de mercenaires, quoi, des anciens militaires pour la plupart. Enfin, c'est un mélange de... Ce qui est assez incroyable, c'est que c'est tiré d'une histoire vraie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce Glanton, là, le chef de cette bande, a vraiment existé. Le juge, qu'on appelle le juge Holden, qui est un personnage incroyable, quoi, qui est un des personnages les plus marquants de la littérature, je trouve.
C'est une figure du mal
C'est
totalement cultivée.
incroyable, quoi. Et a vraiment existé aussi, apparemment. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont fait des recherches pour savoir, parce qu'on hésite entre quelle était sa vraie, véritable identité. Mais apparemment, donc, c'est un type qui a existé, effectivement, qui est un personnage incroyable, quoi. Et donc, ce gamin qui est au milieu et qui déambule avec ces gens, c'est d'une violence, c'est vraiment du roman noir, c'est d'une violence incroyable, ce bouquin. Et en même temps d'une poésie aussi. C'est ce que j'aime beaucoup, entre autres chez McCarthy, c'est la relation très étroite entre la violence, le noir et la poésie, quoi. Il y a un côté un peu mystique, il y a un côté biblique presque dans sa manière de raconter les choses. Voilà, donc
Alors,
c'est.
western, hein, clairement, enfin, on est dans le mythe américain, mais alors d'essayer, revisiter. Et là, on pense, pour ceux qui ont lu, qui se souviendra de Filigeaux, puisqu'il est question d'Amérique aussi, de votre Amérique, il y a aussi un regard totalement désabusé, peut-être assez réaliste finalement, bah, sur cette partie de l'histoire fondatrice de l'Amérique, la conquête, enfin, c'est tout ça est dessillé, et cette bande les Américains, cette bande finalement est aussi sauvage que les sauvages,
Bien, bien
hein,
sûr, et même voire plus sauvage que
voire
les
plus.
sauvages. Et effectivement, c'est un peu la fondation de l'Amérique, finalement. Oui, c'est l'Amérique qui est en train de se former avec le sort qu'on a réservé aux Amérindiens, notamment, et à tous ces gens-là. Mais là, on est dans le pire du pire, quoi. C'est vraiment.
C'est pas du Ford, hein, c'est-à-dire que c'est pas
Non.
le cow-boy
Non.
moral.
Il y a des scènes, je me souviens d'une scène d'attaque entre Apache et un groupe de mercenaires comme ça, qui est incroyable, quoi. Ça dure 4-5 pages, mais je ne sais pas si tu vois la scène à laquelle je parle, c'est fantastique, quoi, d'écrire comme ça. Il y a. Ouais, c'est. Juste pour revenir, d'une manière générale, les quatre auteurs, là, ont en commun d'avoir un style puissant. C'est-à-dire, ils n'écrivent pas d'une manière neutre, ils n'écrivent pas d'une manière plate. Ils ont chacun un style, et un style qui est prégnant, qui est fort. Et donc, on peut très bien. C'est le genre d'auteur et de roman, justement, où on peut très bien ne pas du tout rentrer dedans. Il y a plein de gens qui ont. Je sais, j'en connais, qui sont incapables de lire McCarthy. Ils peuvent pas, c'est trop. Comme il y a plein de gens aussi qui sont incapables de lire Giono, parce que c'est aussi dans un autre genre, mais c'est un style fort. Voilà, moi j'aime les auteurs en général qui ont un style fort. Alors certains ne me conviennent pas, je n'adhère pas à leur style et j'ai du mal, mais j'aime, voilà, comment dire, ce parti pris voilà, d'écrire d'affirmer un style vraiment fort. Si on n'aime pas, ben tant pis, on laisse tomber. Mais par contre, quand vous aimez ce genre de truc, vous êtes happé, quoi. Et puis, la plus grande partie du plaisir vient de là, quoi, de leur style, non seulement de ce qu'ils racontent, mais de leur style.
On va y revenir. Il y a peut-être une passerelle à faire avec Giono, je trouve,
Il
dans
y
la
a
façon de
certainement,
décrire la
tout à fait,
nature,
ouais.
qui est indifférente aux hommes, en fait. Elle est magnifique. Il y a des passages, enfin, justement, elle est magnifiée par l'écriture. Et en même temps,
Elle
elle
est
écrase,
dure,
elle est
elle est
dure.
dure.
Il n'y a pas de.
Mais en même temps, c'est vrai. Quand on regarde bien la nature, c'est pas les petites fleurs, machin, tout ça. La nature, c'est quelque chose de dur aussi, quoi. Je sais pas, j'ai jamais vécu dans la campagne, mais je le sens.
Mais là, enfin, ils sont là, ils traversent. Il y a des pages entières où ils traversent le désert et ils survivent. Ils sont en état de survie, de d'apnée, hein, ils avancent.
Ouais, tout à fait. Non, c'est violent, encore une fois. On est dans la violence, dans la noirceur et en même temps dans quelque chose de, voilà, dans la poésie pure, quoi.
Et je reviens sur l'Amérique, parce que, bon, alors, effectivement, les mercenaires, les Américains, ils prennent cher, hein, je veux dire, il n'y a rien de bien beau, de bien... mais inversement, il y a eu l'anti-western, enfin, il y a les Indiens, enfin, en tout cas, une des tribus qui est mise en scène, ils sont tout aussi cruels,
oui.
Enfin, il y a... On ne magnifie pas parce qu'il y a cette tendance aussi. Hein, dans...
C'est rare sont les personnages, que ce soit en particulier chez McCarthy, qui sont uniquement gentils ou uniquement méchants, ou, enfin, du bon côté ou du mauvais côté. Et tous ces gens-là, ces auteurs-là, parle de l'homme et travaille la matière humaine et forcément la matière humaine n'est pas faite d'un seul bloc et d'un seul sentiment, donc il forge là-dedans. Et oui, les Indiens aussi sont des êtres violents et durs. En même temps, c'est pour le coup, c'est pas eux qui en cherchaient, mais c'est vrai que quand ils se défendent, quoi, et ils plaisantent pas non plus, quoi. Mais oui, tu as raison, il a une manière de parler de la nature. Il y a un autre bouquin, alors je parle de McCarthy, par exemple, qui s'appelle « De si jolis chevaux ». C'est une trilogie, en fait, où il est question notamment de deux copains qui travaillent dans des ranchs et qui s'occupent des chevaux, tout ça. Il a justement une manière de parler des chevaux, de parler de la faune qu'il y a à ce moment-là, qui est magnifique, quoi. Et j'y suis, quoi. J'y suis quand je le lis. Voilà. Moi qui bouge pas de chez moi, je suis en plein désert et cerné par les Apaches, quoi.
Alors bon, on pourra revenir sur McCarthy, mais on va passer à tout autre chose,
ouais.
Tout autre univers avec Ada Nabokov. Ouais. Alors. C'est pas une nouvelle, hein. C'est quel objet littéraire.
Hormis le talent, ils n'ont absolument rien en commun, Nabokov et McCarthy, pour le coup. C'est deux écritures totalement différentes, deux auteurs qui viennent de mondes assez différents aussi.
Alors peut-être, allez, je vais vous citer, ouais. Mais dans Qui se souviendra de Filigeau, il y a carrément un des narrateurs qui vous accuse d'imiter Nabokov, en disant que c'est même une pâle copie de Lolita. Hein. Et donc c'est l'auteur préféré de Barbara Groove, hein, un des personnages de Filigeau, la fée dont est amoureux Deepak Singh, l'un des narrateurs. Et donc, elle parle de cette ironie, de cet humour un peu détaché.
Elle ne m'accuse pas, moi.
Non. Oui, voilà, c'est ça. Mais il y a une espèce de mise en abîme. C'est quand même...
Attention.
Bon, on ne va pas revenir sur ce dossier. Hein, de qui a écrit ce bouquin. Hein, on se pose toujours la question. Donc, elle parle de cette ironie, de cet humour un peu détaché. Là je cite, hein, le livre. Cynique, parfois, cette façon de raconter des choses horribles avec une sorte de légèreté et de dandysme. Effectivement, dans Ada, il y a cette espèce de...
On ne sait pas qui écrit,
hein. Il y a sans arrêt comme ça des traces.
Il y a plusieurs strates narratives, c'est assez virtuose et assez balèze, quoi. Nabokov, pour ça. Alors, je vais être très honnête, c'est sans doute des quatre livres le plus difficile à lire. C'est pas évident, je sais. Bon.
Alors, les 30 premières pages, on a l'impression qu'il les a écrites pour décourager tout le monde.
Ouais, si vous arrivez à passer le premier chapitre, en gros, ouais, bon, après, ça va à peu près. Mais c'est le genre de bouquin, vous n'en finirez jamais, quoi. Moi, je sais, je finirai jamais de revenir dessus et d'avoir d'autres choses à comprendre éventuellement. Je comprendrai certainement pas tout. Mais en même temps, j'ai remarqué que c'était aussi un des éléments qui marque les plus grands romans. Je trouve qu'il y a toujours une part de mystère qui reste, une part de trucs qu'on ne comprend pas tout à fait, dont on n'est pas tout à fait sûr. Et ça ne me déplaît pas, moi. Voilà, vous lisez un livre, vous avez tout compris du début à la fin, tout est clair, net, précis, bon, ok. Là, il reste toujours un truc, quoi. On peut gratter, on peut y réfléchir, on peut se poser des questions. Et Nabokov, on peut y aller, quoi.
Alors
Il y a
là,
de
je vais
quoi.
peut-être chaque fois un peu poser la même question, mais c'est vrai que Nabokov, dans sa totalité, Ada en particulier.
Alors, oui, alors Nabokov, j'ai découvert beaucoup plus tard. Nabokov, c'est le genre d'auteur que je n'osais pas lire pendant longtemps. Il y a des auteurs comme ça où je sens que je suis pas encore prêt. Et puis c'est aussi le genre d'auteur, par exemple, un bouquin comme Lolita, on a l'impression de l'avoir déjà lu, en fait. Un peu comme Don Quichotte. Don Quichotte, tout le monde croit l'avoir lu, mais en fait, il y a très peu de gens qui ont réellement lu Don Quichotte. Et Lolita, pareil, parce qu'on connaît à peu près l'histoire vaguement et tout. Et donc, bon, j'avais Lolita chez moi. Bon. Voilà, je pensais connaître l'histoire à peu près, etc. Et puis un jour, je me suis quand même décidé à lire Lolita. Et déjà, je me suis pris une bonne claque, quoi. Parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc du coup, ben, pareil, hein, j'ai eu envie de lire d'autres bouquins de Nabokov. J'en ai lu quelques, pas tous pour le coup, je ne les ai pas tous lus. Nabokov, c'est quand même un type assez incroyable. Hein. Il est russe, donc hein, il a écrit d'abord en russe. Puis il a écrit en américain, en anglais. Ada a été écrit en anglais, tout en ayant écrit aussi en français un ou deux bouquins. Ça va.
Et il a supervisé
Et
la traduction.
supervise les traductions, évidemment, dans chaque truc. Et il se sert de ce multilangage, je sais pas comment on dit, dans les bouquins. Souvent, il y a des jeux de mots entre plusieurs langues comme ça. Je ne sais pas si tu as fait gaffe, mais il joue
C'est
avec
beaucoup de
ça
Russes
aussi.
hein, dans
Il y a
Ada.
du russe, il y a du français, mais il joue avec les deux comme ça. C'est assez incroyable, quoi. Et donc, j'ai lu d'autres bouquins qui m'ont pas autant, enfin que j'ai aimé aussi pour d'autres raisons, mais qui m'ont pas autant marqué. Et puis un jour, je suis tombé sur Ada. Ada, c'est donc le dernier livre écrit par Nabokov, le dernier roman écrit par Nabokov. Il a presque 70 ans quand Ada sort. Hein. Et là, waouh, enfin c'est le genre de truc, quoi. C'est encore plus fort que Lolita, ce qui est pas rien. Et ouais, c'est comme le personnage le dit un peu, c'est tout c'est fin, c'est subtil, c'est ironique, il joue, il a une manière de jouer avec les mots que j'adore, c'est tout l'art de dire les choses sans les dire, quoi. S'il y a un mec qui sait dire les choses sans les dire, c'est lui. Et moi, j'adore ça. J'adore quand les auteurs nous font comprendre les choses ou nous suggèrent les choses sans les dire. Nabokov est très très bon pour ça. Il a effectivement, comme le dit le personnage aussi, il a l'art d'évoquer des sujets, des situations qui sont abominables, a priori en elles-mêmes. Parce que là, c'est quand même l'histoire, là, une grande histoire d'amour entre deux cousins, on va dire, mais qui en réalité sont plutôt frères et sœurs, d'après ce qu'on pense. Comme Lolita, c'est l'histoire d'un type qui viole sa belle-fille, quoi, hein, en gros, qui a 12 ans. Hein. Voilà, des sujets assez,
Explosif.
assez explosif, assez dur. D'ailleurs, je me posais la question, je dirais, est-ce que ça sortirait maintenant, ça? Tu vois? Est-ce que ça sortirait comme ça, sous cette forme-là, quoi? Enfin, des bouquins qui parlent d'inceste et de trucs, il y en a tous les ans à la rentrée littéraire, mais pas écrits par Nabokov, quoi. C'est là où c'est. Bon, bref.
Il y a un point commun avec McCarthy, le personnage, enfin c'est la moralité de
Ouais,
peut-être
tout à fait.
de.
Et donc, normalement, voilà, c'est le genre de truc qui vous dégoûte ou vous écœure ou pour lequel vous avez une certaine répulsion, le sujet. Sauf que écrit par lui, non. Alors c'est pas non plus qu'on pardonne forcément le truc, mais c'est qu'il a justement une manière de montrer les choses, que, de voir que tout n'est pas aussi simple que ce qu'on croit, que... Enfin, je sais pas, une manière alors, de...
Par exemple, dans Ada, ce qui est fort, c'est que la passion charnelle hein, entre les personnages, et qui est donc qui sont des enfants, hein, donc c'est vraiment, on est dans un tabou là, très très prégnant, elle est décrite avec beaucoup de pureté, et il y a quelque chose de solaire et de...
Il y a,
dans
ouais,
la
il y a
façon
quelque chose
de raconter ça.
Tu vois, ça
et j'ai pensé au moins au garçon et à la passion charnelle des deux personnages qui ne s'encombrent pas non plus du regard de la société. Quoi.
Encore un auteur qui m'a tout piqué. Quoi. Non, mais tu vois, par exemple, McCarthy, il a écrit un autre bouquin. Je fais des ponts, excusez-moi.
Mmh, ouais, ouais, non, mais...
Qui s'appelle L'obscurité du dehors, où il est question d'un inceste entre frères et sœurs. C'est pas du tout écrit de la même manière et tu ressens pas du tout les mêmes choses, quoi. Et c'est assez... C'est marrant de voir que deux sujets, finalement, qui pourraient être identiques, sont traités d'une manière totalement différente. Et tu fais bien, effectivement, de parler de ces scènes charnelles, comme tu dis. Dans Nabokov, il y a un érotisme. Waouh, c'est... Je veux dire... Je trouve que c'est le type qui écrit le mieux sur de manière les scènes érotiques, quoi. C'est fabuleux. Et encore une fois, sur des sujets où tu n'as pas forcément envie d'aller dans l'érotisme, justement. Mais il est hyper fort, quoi. Il est très, très fort pour arriver à te retourner comme ça et à te faire oublier ça et à te montrer la beauté de la chose et à te montrer, une espèce de pureté, finalement, comme tu dis, de luminosité là-dedans, quoi. Donc, il est très, très bon aussi dans ce domaine-là, quoi.
Alors, à propos de beauté, j'ai l'impression que c'est une figure centrale qu'on peut s'amuser à chercher dans vos romans, mais ce château d'Ardis, qui est un espèce de paradis sur Terre, enfin, qui est posé comme ça, lumineux, deux étés solaires, enfin bon, voilà, et qui est le fil conducteur hein, du roman. Bon, on le retrouve par moments, enfin, moi, il me semble que... peut-être pas, mais la maison des cygnes près de la grande maison blanche, les branches des arbres géants tombées dans l'étang, moi ça me fait penser à cet Éden de Garden of Love par exemple. Est-ce que c'est cet espace-là, ça pourrait être un château d'Ardis? Est-ce qu'il y a des passerelles possibles comme ça? Est-ce que c'est
C'est possible, écoute.
Ou la campagne en Seine-et-Noise, hein, du garçon aussi,
qui a
un petit côté château d'Ardis. ça agace, ça, comme ça, quand on va chercher des comparaisons.
Non, c'est pas que ça agace. Mais
l'auteur,
c'est...
en disant, mais non.
Mais non, non, mais moi, je reconnais et je revendique que ça fait partie des auteurs et des bouquins qui m'ont influencé dans mon travail, dans l'écriture. Donc, c'est évidemment qu'il y a sans doute des choses qu'on retrouve, mais pour moi, c'est pas conscient. Donc, si tu me fais remarquer telle ou telle chose, je vais peut-être dire, ah oui, effectivement, il y a de ça, sans doute. Voilà, évidemment que quand j'écris, je pense pas spécifiquement à ça, ou je me dis pas, je vais faire la même chose que Nabokov, machin, c'est pas le but.
Et
c'est pas le cas, et je serais bien incapable d'écrire du Nabokov, hélas. Mais... oui, donc ça fait partie justement de ces livres qui m'ont marqué et qui forcément vont ressortir d'une manière ou d'une autre quand j'écris, quoi. Il y a des scènes dans Nabokov, dans Ada, qui m'ont... je me souviens d'une scène en particulier, du suicide de Lucette. Rien d'en parler, je vais pleurer. C'est magnifique, quoi.
Ouais. Oui, bon, bah, il faut. Je ne sais pas si
désolé,
vous l'avez lu, hein, mais ça arrive pas tôt. Mais c'est vrai qu'on se laisse
Et c'est ça qui est beau, c'est que non seulement c'est drôle, il y a beaucoup de passages très drôles dans Nabokov, et il y a un moment où il vous cueille comme ça avec une scène. Chaque fois que je la relis, je l'ai relu il n'y a pas longtemps, je pleure, quoi.
Et ce qui me fait penser à votre univers aussi, en tout cas aussi à votre dernier roman, cette façon d'être sur différents niveaux. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a quelque chose de virtuose dans le jeu, justement, sur qui parle, qui écrit. En lisant Ada, il joue tout le temps là-dessus.
C'est une histoire qui est censée être écrite par Van lui-même,
oui.
Sauf qu'il l'écrit à la troisième personne.
Voilà.
Et de temps en temps, il revient au jeu.
Oui.
Et il y a en plus des commentaires d'Ada qui s'ajoutent au
qui
truc.
Commente.
Donc oui, il ne simplifie pas les choses. C'est sûr qu'il faut, suivre et ce n'est pas toujours simple. Mais voilà, encore une fois, quand on rentre dedans, et à la limite, on s'en fout de ne pas tout comprendre. Quoi. Je veux dire,
Et il y a des notes à la fin qui sont signées avec un pseudo d'un des personnages qu'on retrouve dans Lolita.
Oui, non, c'est un type Nabokov qui s'amuse vraiment, quoi, qui s'amuse avec la structure, qui s'amuse avec les mots, qui s'amuse avec les modes narratifs, etc. Il faut le suivre, enfin, il faut essayer ou pas. Il faut juste laisser emporter.
Alors, ça devient presque austère et presque trop compliqué pour le lecteur. Et puis, paf, là, comme on vient de le voir, il nous reprend par la main et il refait monter le. Et on est pris dans le récit et dans l'émotion.
Il fait ce qu'il veut, quoi. Il se balade et il nous balade avec. Quoi. Et c'est beau et c'est bon. Ouais, mais voilà quoi. De toute façon, en gros, à part dire que c'est beau et bon, tout ce que j'ai dit, le reste, Mais voilà, on peut très bien, quand vous commencez Ada, au bout de quelques pages, vous dire non, quoi.
Encore une fois, il faut passer la 30e. Hein.
Ouais, même.
Et même, après, on peut s'y perdre.
Non, je comprends. Hein.
Alors, Giono, le hussard sur le toit. C'est pas parce qu'on est. Vous n'êtes pas dit, j'allais résidence à la Tour d'Aigle, ça sera Giono.
Non, Giono, c'est. Tu sais, en général, quand on pose souvent la question, quels sont vos auteurs préférés, en règle générale, je cite deux auteurs, je cite Giono et McCarthy. Qui effectivement ont une espèce de lien, je trouve. Je ne sais pas exactement lequel, mais voilà. Giono, j'ai découvert que j'avais une vingtaine d'années. Je me souviens aussi comment ça s'est passé. C'est ma femme, qui n'était pas encore ma femme, qui allait le devenir un jour, qui fait ses études à Aix. Et pendant ses études, ils avaient étudié un bouquin de Giono, qui n'était pas le hussard, qui était « Que ma joie demeure ». Moi, j'avais jamais lu Giono, parce qu'à une époque, au collège, on étudiait l'homme qui plantait des arbres, ce genre de trucs-là, mais moi, j'avais absolument jamais étudié ça, j'avais jamais lu Giono, et je crois même que ça ne me disait rien du tout, enfin, son nom ne me parlait absolument pas, quoi. Et donc, ils avaient commencé à étudier Giono à la fac, là, et elle revient le soir, elle me dit « ne lis pas ça, c'est trop chiant, quoi ». Comme j'ai un peu l'esprit de contradiction, je dis, je vais aller voir. Et donc j'ai commencé à lire Giono à ce moment-là. Je ne sais plus si j'ai commencé par Que ma joie demeure. Sûrement. Et j'ai enchaîné Giono, pareil. Quoi. Ça fait partie de ces auteurs où j'ai à peu près tout lu. Pourtant, il en a écrit pas mal, Giono, lui, contrairement à McCarthy, il a quand même écrit pas mal de trucs. J'ai à peu près tout lu. Franchement, tout est bon, quoi. Tout est bon.
Et pourtant, là, le hussard, est-ce que ça veut dire que c'est...
Alors, honnêtement, j'ai hésité parce que je suis même pas sûr que celui que je préfère de Giono.
Ah.
Ouais. Mais bon, il faut un moment, il faut choisir. Et je trouve que c'est un bon exemple d'un bouquin qui peut être à la fois grand public, parce que pour le coup, c'est pas Nabokov. C'est-à-dire, tout le monde peut lire le Hussard. Voilà, c'est une écriture magnifique, c'est beau, quoi.
Mais c'est atypique, il ne se passe pas grand-chose. Enfin, c'est pas, enfin, finalement, il y a
Comment
une
ça,
espèce
il ne se
de...
passe pas
Enfin, il se
grand-chose?
passe beaucoup de choses, mais il y a un rythme qui est très, très, très lent.
Si, c'est aussi un roman un peu d'aventure quand même. C'est un type. Alors, il y a ce héros de Angelo, là, qui est une espèce de. Ouais, qui est. Pour le coup, c'est D'Artagnan, quoi.
C'est D'Artagnan, mais il mène aucune bataille, en fait.
Bah, si! Il mène une espèce de bataille contre le choléra, contre la maladie, contre les lâches qui abandonnent tout, etc. Si, c'est, pour le coup, c'est un héros finalement assez oui, très lumineux et presque pur, quoi. Lui, il a peu de choses du côté du mal, Angelo, quoi. Alors, ça fait partie d'un cycle en même temps, le Hussard, hein. Il y a plusieurs bouquins avec ce personnage, etc. Il y a une histoire d'amour que je trouve merveilleuse avec.
Très très pur pour le
Voilà. Et effectivement, une des plus belles scènes d'amour sans amour, quoi. Sans amour physique entre Pauline de Théus et Angelo. C'est très beau, je trouve, quoi. C'est. Voilà, ce moment où il la soigne, où elle est malade et où il passe la nuit à essayer de la soigner, de la guérir, etc. C'est très beau, quoi. Et puis, oui, et puis bon, il y a évidemment la langue de Giono, quoi, Là, c'est un exemple assez intéressant qu'elle a lu parce que. On se rend compte que Junot, il écrit du roman noir aussi, encore un. Je veux dire, c'est pas ce qu'il raconte là, il n'y va pas de main morte non plus, quoi. On est dans des trucs atroces, on est dans des. Voilà. Et voilà, c'est pas facile de décrire des scènes comme ça, de décrire des trucs sans. Pour être juste
Il
ou
y va
pas.
très fort, hein,
Voilà.
Macarty. Il y a quelques, il y a quelques,
Il y a aussi, voilà,
une description du choléra et de ses effets. Le riolet, on ne peut plus en manger une fois qu'on a bu
C'est vrai. Et en même temps, j'adore la liberté de Junot parce que il peut être dans le très réaliste, mais en même temps, il s'en fout complètement. C'est-à-dire que le riolet, ça n'existe pas en réalité. Ça ne fait pas du tout partie des symptômes du choléra, mais hop, allez, et ça marche, quoi. Et on y croit, et ça marche. Et il a une manière d'utiliser la nature, il a une manière d'utiliser les lieux. On parle toujours de Giono, la Provence, Manos, etc. Mais quand on regarde dans le détail, tout ce qu'il décrit est à peu près faux, quoi. Voilà, c'est un type qui est capable de nous embarquer dans des trucs et de nous faire croire que c'est vrai. Voilà, il nous fait sortir là à la Tour d'Aigle, il va vous décrire la Tour d'Aigle comme vous ne l'avez jamais vue, même si ça fait 50 ans que vous habitez à la Tour d'Aigle. Et vous allez y croire. Vous allez vous dire, putain, ça fait 50 ans que j'habite là, je n'ai jamais vu. Eh oui. Parce que. Voilà, c'est encore une fois, ces types-là ont l'art d'utiliser les mots d'une certaine manière qui fait qu'on est embarqué, qu'on est mystifié, quoi, tout simplement.
Et là, de nouveau, enfin, il y a ce rapport que cette façon d'écrire la nature qui est tour à tour protectrice. Hein, quand on s'éloigne un peu des villes, et c'est les moments où le choléra est un peu tenu à distance, et en même temps écrasante, menaçante. On a l'impression qu'il nous parle de nos craintes contemporaines avec le réchauffement climatique,
Bien
enfin, les
sûr,
moments où
bien
la
sûr.
chaleur pèse sur les
Il y a la beauté, il y a la dureté, il y a quelque chose d'implacable dans la nature. Et effectivement, il fait ressortir ce côté-là aussi, quoi. Comme il fait ressortir le côté souvent très sombre des hommes, quoi. C'est pas, encore une fois, c'est pas. Les personnages, à part Angelo, voilà, qui est justement un petit peu à part, je trouve, dans sa. De nombreux personnages de Giono sont des vrais salauds, quoi. Sont des vrais salopards, sont des vrais.
La
Sont
foule
des sales types, quoi. La foule
est
est effectivement. Et on dit souvent, d'ailleurs, qu'il a écrit ce passage d'Angelo qui se cache sur les toits de Manosque. Donc c'est un roman qui est sorti en 1950 ou 51, je crois, juste après la guerre. Il a été beaucoup critiqué, Giono, pour ses positions pacifistes, pacifistes on dit, ouais. Voire par certains qui l'ont accusé d'être collabo, un peu, enfin, collabo, enfin, d'avoir des sympathies en tout cas pour. Et donc, oui, une espèce de lynchage littéraire au sortir de la guerre sur Giono et puis les habitants de Manosque n'ont pas été tendres avec lui. Et il a une manière un peu de se venger quelque part, en tout cas de parler de cet état d'esprit à travers l'histoire d'Angelo qui se cache, qui est accusé à tort d'avoir empoisonné les fontaines, si je me souviens bien. J'ai pas relu les
Oui,
bouquins,
si.
donc c'est.
C'est ça.
Mais voilà, et qui. Il y a effectivement comment dire, cette haine et cette méchanceté de la foule, enfin de l'homme quand il est en groupe comme ça et qu'il cherche un bouc émissaire, quoi.
Alors, il y a quelque chose de, je trouve, très cinématographique aussi dans son univers et dans le Hussard. Il a souvent été adapté,
Ouais,
ce qui me
effectivement.
permet peut-être de de me poser une question sur votre rapport à ça, parce que bon, ben voilà, il y a ce goût pour le cinéma qui a été le vôtre.
Ouais.
Ça, voir vos romans adaptés au cinéma, ça serait quelque chose de comme un,
Ouais, alors
ou
ça,
une crainte, enfin
non, c'est pas une crainte, non, non, ça serait bien, ça m'arrangerait. Pour
Ouais.
certaines raisons. Après, c'est pas une fin en soi non plus.
Non, mais
Il y
si on
aura
dit qu'il y a quelque chose
jamais.
de cinématographique dans ce que vous écrivez, c'est ouais, ouf, non.
Ouais, on m'a souvent dit ça, mais c'est assez étrange. Et c'est d'ailleurs assez étrange qu'on puisse le dire sur Giono aussi, même si je comprends pourquoi. Parce que oui, on voit des images quand on lit Giono en particulier.
Écran large.
Des images se forment, etc. Alors que ce sont des auteurs qui travaillent les mots, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas du tout cinématographique, quoi. Et je ne me mets pas dans le même sac que Giono, mais moi, on me dit effectivement souvent que j'ai une écriture cinématographique, alors que j'écris pas pour l'œil, mais pour l'oreille, avant tout, à l'oreille, avant tout. Donc. C'est un peu étrange en même temps. J'ai une petite anecdote, je peux.
Allez.
Justement, sur le tournage du Hussard sur le toit à Manosque, il se trouve que j'avais un copain. J'ai un copain qui était un peu comédien comme ça et qui était engagé pour faire un tout petit rôle dans le Hussard, dans le tournage du Hussard, quoi. Et donc il m'a dit, bah viens, parce que c'était l'époque où justement je m'intéressais un peu au cinéma, etc. Il me dit, viens, tu viens de mon tournage, tu viens me voir un tout, etc. Et donc je suis allé et je suis effectivement tombé au moment où il tournait dans Manosque, comme ça. Donc c'était, comment il s'appelle, Rappeneau, si je me souviens bien. Et j'étais jeune, donc assez. Insouciant pour certaines choses. Et donc, il tournait ce passage-là. Il y avait. Alors, malheureusement, il n'y avait pas. Comment elle s'appelle, l'actrice? Ouais, il n'y avait pas Binoche pour cette scène. Il y avait l'autre que j'aime pas du tout. Hernandez, Fernandez, comment
Ouais,
ça
son
s'appelle?
nom.
Martinez.
Je ne prononce.
Voilà, et donc, il tournait cette scène où mon copain jouait un petit truc comme ça. Et donc, il tournait la scène et il y a ce qu'on appelle un combo, c'est-à-dire l'espèce de petit écran où, après avoir tourné la scène, le metteur en scène et le chef opérateur regardent un peu, voir si ça. Et donc, je me pointe, moi, et peur de rien, quoi. Il y avait Rappeneau là, le chef opérateur, et moi, là. Genre en train de dire. Et avec le recul, je me disais, mais putain, mais j'étais complètement. Et d'ailleurs, à un moment donné, c'était Bruno Nuitaine, si je me souviens bien, qui est un grand chef opérateur français, et il se tourne vers moi, j'ai l'air de dire, mais c'est qui? Il devait croire que je faisais partie de l'équipe ou je sais pas quoi. Et ben voilà, c'est une petite anecdote assez, assez drôle.
Et cette adaptation, elle écrase le roman, elle lui rend
Le quoi?
l'adaptation, ce qu'il en a tiré.
Est-ce que le cinéma, c'est pas mal, mais bon, ça atteint jamais, les niveaux Lolita. Alors pour le coup, j'ai pas vu Lolita, quand même filmé par Kubrick, ce qui est pas rien. Mais j'ai pas vu le film, donc je sais pas du tout ce que ça. Mais pareil, ce sera jamais aussi riche que.
Vous êtes toujours déçu des adaptations.
Il faut pas s'attendre à ces deux médiums totalement différents, qui fonctionnent absolument pas de la même façon, un roman et un film. Donc il faut pas s'attendre à quand on va avoir un film adapté d'un roman, il ne faut pas s'attendre à retrouver le roman. Même si on peut retrouver vaguement la trame de l'histoire, on ne retrouvera jamais la richesse de ce qu'on trouve dans le roman. L'important, ce n'est pas ça. L'important, ce n'est pas que ce soit fidèle au roman. L'important, c'est que ce soit un bon film. On s'en fout que ce soit fidèle au roman, je pense. Voilà, c'est deux œuvres différentes. Le film n'arrivera jamais à refaire ce qu'on trouve dans le livre, donc il faut simplement qu'il se base là-dessus éventuellement, mais qu'il fasse œuvre à part entière et que ce soit bon. Voilà, c'est tout.
Alors, il nous faut avancer et on passe encore une fois à quelque chose de très différent et avec Mangeclou d'Albert Cohen.
Mangeclou, c'est le livre le plus drôle que j'ai jamais lu. Et pourtant, je suis pas très bon public en ce qui concerne les trucs comiques. Il en faut quand même pas mal pour me faire sourire, voire rire dans un bouquin. Mais là, voilà, je trouve que c'est vraiment très très drôle. Pas que, mais c'est surtout très drôle. Cohen, en gros, Cohen, il a écrit un livre, un roman. Il a écrit un roman. Qui est en gros Belle du Seigneur. Et tous les autres romans, comme Mangeclou, comme Les Valeureux, comme tout ça, ce sont des passages qu'il a enlevés à Belle du Seigneur, finalement, et qu'il a remanié un petit peu pour en faire des romans. Parce que Belle du Seigneur, ça fait déjà 1000 pages, mais à la base, ça en fait le double. Et donc, Gallimard lui a dit non. Non, en fait, non. Et donc, il a enlevé des passages et il a fait d'autres romans comme ça autour de ces personnages-là, donc de ce qu'il appelle les valeureux. Donc, c'est cinq juifs de cette île de Céphalonie, dont Salomon qu'on voit là. Il y a le fameux Mangeclou, donc qui est son surnom. Il y a Salciel, Matathias et Michael, je crois. Hein, c'est ça? Voilà, et donc on suit les aventures de ces personnages-là. Donc c'est centré là-dessus, sur eux. Ces romans-là sont centrés sur eux. Ces cinq personnages, je ne sais pas si vous avez lu Belle du Seigneur, mais ils sont dans Belle du Seigneur. C'est l'oncle de la famille du fameux Solal, le héros un petit peu de Belle du Seigneur et le héros de la ville et de Céphalonie et le héros de ces personnages-là qui lui vouent un culte. Voilà, et donc il se trouve que là, ils vont retrouver, ils partent de leur petite île pour aller retrouver justement Solal, enfin en tout cas un mystérieux personnage qui leur envoie un message pour le rejoindre en Suisse, à Genève. Et donc, on va suivre les tribulations de ces cinq individus comme ça. Voilà, c'est très drôle. Et c'est pas que drôle parce que il parle aussi évidemment beaucoup de la question juive, Cohen. Il parle aussi beaucoup de ces gens de ces fonctionnaires qui travaillent à la. À l'époque, c'était la Société des Nations, etc. Et il est assez dur, finalement, avec ces gens-là. Et c'est vrai que c'est un aspect qu'on oublie, même dans Belle du Seigneur. D'ailleurs, je relis des passages, tout ça. On se rappelle souvent voilà, de l'histoire d'amour entre Solal et Ariane. Mais on oublie souvent cet aspect. Cet aspect. comment dirais-je, caustique, cet aspect dur, cet aspect critique. Sur,
c'est très satirique.
Satirique, voilà.
En fait, il y a presque une rupture en fin de roman, parce que on passe, les cinq valeureux sont plus en arrière-plan, et il y a une satire de la Société des Nations de Genève.
Tout à fait, oui.
Il y a deux temps, il y a un côté rabelaisien, alors pour le coup, durant les trois quarts du bouquin, et après on part plus dans la satire, dans la satire politique pratiquement.
Oui, ouais, il y a cet aspect-là, effectivement, qu'on oublie souvent en parlant d'Albert Cohen, et qui est très, très présent et très, très fort aussi, très intéressant.
Et alors là, l'humour, pour ceux qui vous suivent, c'est quelque chose qui semble être de plus en plus présent.
Justement, en lisant des bouquins comme ça, où je me dis, c'est quand même balèze, quoi. C'est quand même intéressant d'aller dans cette voie-là, dans cette voie de l'humour. Alors, il y a un côté farce comme ça que... Autant j'aime pas tellement Rabelais, pour être franc. Mm-hmm. Enfin, ça me parle pas plus que ça, Rabelais. Mais peut-être parce que c'est d'une autre époque, parce que c'est un... Ouais, je sais pas, ça me parle moins. Même si je consens qu'on est dans cette veine-là, hein, tout à fait.
Mangeclou, mais le père de la crasse.
Ouais, mais tout à fait.
Mais avec sa femme Rebecca sur son pot.
C'est fabuleux, mais et voilà, et il a peur de rien, Cohen, quoi.
Ah oui,
il y va aussi dans la grossièreté du trait, si on peut dire, et c'est dur de voilà, il y a aussi encore une fois une espèce de liberté, comme je parlais de liberté chez Giono, mais il y a une liberté chez Cohen aussi. Où il disait justement, quand on lit un peu des interviews ou des trucs de Cohen, ce qui est difficile pour lui, c'est de s'arrêter, quoi. Il a tendance à en remettre. Ce qui était compliqué souvent, c'est de moment où on se dit, bon, stop, là, j'arrête, quoi. Et souvent, d'ailleurs, il avait pour habitude de dicter ses textes, alors souvent à la femme avec laquelle il vivait, et que c'était souvent justement cette femme, la personne qui tapait ses textes, qui lui servait pour lui dire non, peut-être là il faut arrêter, ou voilà. Mais sinon, on le voit beaucoup dans Belle du Seigneur, effectivement, il y a ce truc où on est emporté par les mots, emporté par un flot comme ça. Et là, on le retrouve aussi dans le côté comique, toutes les scènes que décrit Scipion, le Marseillais. Là, c'est...
Oui, un fabulateur, un libidineux.
Et c'est assez étonnant parce que, effectivement, moi, en général, j'aime pas trop ça, justement, ce côté un peu. Où on force sur l'accent, machin, alors que chez lui, ça marche. Pour moi, ça marche très bien chez Cohen, mais c'est peut-être le seul avec qui ça marche.
Oui, parce qu'on pourrait lui reprocher, justement, la façon de décrire la culture juive, enfin, tant qu'il y en a, il prend tous les clichés, il fonce dedans.
Effectivement, il n'a pas peur de prendre les clichés, même dans la manière dont s'exprime le Marseillais, le côté la faconde provençale, etc., qui pourrait... Ce que fait très rarement Giono, justement, qui décrit des personnages, des Provençaux, etc. Cohen le fait. Un autre le ferait, ça m'agacerait, je pense. Lui, ça marche et je plonge, quoi.
Alors, il y a un plaisir assez communicatif de raconter aussi. C'est-à-dire, il parle dans tous les sens et chaque fois il embarque avec une histoire qui entraîne une autre histoire, qui entraîne une autre histoire.
Oui, ouais. Mais c'est effectivement dans tous les romans à peu près qu'on a évoqués là, il y a cette liberté encore de se dire, je crois que j'en parlais l'autre fois, on ne va pas forcément tout droit d'un point à un autre, qu'on prend des chemins comme ça et on retombe sur des pattes, mais en passant par des trucs, parce que tous ces auteurs-là, je pense, sont plus intéressés par la manière de raconter que par ce qu'ils racontent, quoi. En tout cas, il y a une jubilation, je pense, là-dedans. Il y a une jubilation de littéraire, quoi, de se servir de ces mots, de ces outils-là, que sont les mots, et de ce qui compte là-dedans, c'est pas tellement, enfin, c'est pas tant l'histoire qu'il raconte, même si elle est importante, c'est voilà, comment il la raconte, quoi. Et c'est ça que j'aime. C'est ça qui me plaît chez ces auteurs, en plus de l'histoire, mais voilà, c'est ça qui est fabuleux chez ces auteurs-là, quoi.
Alors effectivement aussi dans Manche-Clou, il y a cette la grande histoire derrière qui finalement
Oui, qui n'est pas
est
loin,
sondée, hein, qui
qui
est
n'est
pas
pas
loin,
loin.
qui
Il y
apparaît.
a, il y a le, la montée, effectivement, on est dans les années 30, il y a la montée du fascisme, il y a des allusions à Hitler, etc. Même si il a pas, je crois que c'est sorti, je sais plus en quelle année, en 38, je crois.
38.
38, ouais. Donc, voilà, on sent effectivement la montée du fascisme, la montée de. Et. C'est un juif qui écrit, ce sont des personnages juifs, et il ose dire des trucs que s'il disait ça maintenant, surtout maintenant là, ça serait certainement relevé et ça ferait du buzz.
Et là aussi, il y a un jeu sur les niveaux de narration. Enfin, c'est-à-dire quand on sait qu'il a été lui-même diplomate, je pense en particulier à tous les passages sur sa description extrêmement précise de la Société des Nations et de la diplomatie, du fonctionnariat, on va
Ouais,
dire,
un petit
lié
peu.
à
Alors,
ça.
il n'a pas
Enfin,
travaillé à la Société des
non.
Nations, il a travaillé au Bureau international du travail, c'est comme ça que ça s'appelle.
Je crois, mais en tout cas. Enfin, on sent qu'il y a
Et
un
d'ailleurs, je me suis
regard.
rendu compte d'une chose, parce que tu vois, tu parlais des influences tout à l'heure. Dans R, il y a tout un long passage où je parle du Bureau international du travail. Et c'est en relisant le truc, je me dis, ah, mais putain, ça doit venir de là, en fait. Ouais, non, mais c'est vrai, parce que moi, c'est une institution que je ne connais pas du tout. Pourquoi je tombe sur des personnages comme ça qui sont là-dedans et qui parlent de ça et qui parlent effectivement du côté très fonctionnaire, pointilleux, etc. Mais certainement, ça fait partie de ces choses inconscientes qui me viennent de Cohen, quoi.
Alors, cette façon aussi, je pense, dans Le Garçon, il y a ces séquences où, cette année-là, tout d'un coup, il y a une énumération de faits, de dates qui renvoient à l'histoire. Je pense à dans R, au moment où il y a la pub, c'est-à-dire le monde comme ça qui surgit avec des slogans qui viennent perturber aussi le récit, ou dans Filigo, où là, il y a même des moments où il y a carrément donné dans le roman des pièces, hein, qui renvoient aussi à des faits très contemporains. Enfin, et cet intérêt-là de croiser, enfin, on le voit
Oui,
là
de croiser
de
l'histoire.
croiser l'histoire.
Alors, dans Cohen en particulier, dans McCarthy aussi, on l'a dit, hein, ce sont des événements qui ont plus ou moins existé. C'est une période de l'histoire des États-Unis qui a existé. Nabokov, c'est différent. Pour Ada, on est dans un pays imaginaire un peu. On n'est pas loin même du fantastique quelquefois, parce que toutes on a presque l'impression, enfin, je ne sais pas si c'est une impression, ou je me rappelle plus trop exactement, mais oui, je crois que c'est comme si la Russie avait envahi les États-Unis en fait. Et du coup,
C'est
il y a
ça, avec ces
des,
Vinland,
voilà,
on a
Vinland,
l'impression, en tout cas, que c'est
c'est
bien l'Amérique, mais
des
ça
lieux
pourrait
qui
être la Russie.
n'existent pas dans la réalité, qu'il renomme et qu'il donc il s'arrange avec ça, mais dans Cohen et Manche-Clou, ouais, on est aussi dans cette partie historique, même si c'est raconté encore une fois d'une manière très particulière et très humoristique de la part de Cohen, quoi. C'est ça qui est fort, c'est que voilà, parler du problème des Juifs dans les années 30 venant d'un écrivain juif. Et d'avoir cette liberté, cette audace de raconter certaines choses. Je dirais, Manche-Clou, il est complètement taré, quoi. Enfin, il il est pour le fascisme et pour Hitler, selon les périodes, selon ce qu'il veut obtenir, etc. Donc voilà, il joue avec ça et c'est bien, quoi. C'est, moi, je trouve ça sain qu'on ose ce genre de choses.
Alors, peut-être juste une dernière question pour conclure, parce qu'il faut conclure, on n'a pas le choix. Et je vais citer un personnage, encore un de vos personnages, Gary Sands, dans votre dernier roman, qui s'exclame à un moment, qui dit « 99% de la production que j'ai lue ces dernières années, il parle de littérature, est d'une médiocrité affligeante. » Est-ce que le fait, dans votre bibliothèque idéale, d'avoir des... on le disait tout à l'heure, hein, le plus récent des quatre romans, et il a déjà d'une trentaine d'années. Est-ce que c'est...
En tout cas, eux, ils font partie des 1% qui restent, c'est sûr. Mais oui, c'est des auteurs de cette trempe, des romans de cette trempe, franchement, moi, j'en vois pas chaque année, quoi, loin de là. Bon, après, je lis pas tout, hein. Il y a plein de choses que je connais pas et que j'ai pas lues, donc peut-être que je passe à côté d'auteurs remarquables et de romans remarquables, mais les découvertes littéraires, si je puis dire, que j'ai faites, qui m'ont vraiment impressionné ces derniers temps, c'est pas des auteurs... ça peut être aussi des auteurs qui sont déjà morts, quoi, que j'avais pas encore lus et que je découvre, et je me dis... Je crois que le dernier grand roman qui m'a vraiment, vraiment étonné, vraiment emballé, vraiment, voilà, qu'on peut qualifier de chef-d'œuvre, je trouve, c'est pareil, c'est un auteur mort. Alors pour le coup, il est mort parce qu'il est mort d'une maladie assez jeune, mais c'est Roberto Bolaño, je ne sais pas si vous avez lu Roberto Bolaño, un roman... qui s'appelle 2666. Alors, c'est pas un petit non plus, c'est certes, mais bon. Et ouais, waouh. Dans les auteurs français, les quelques-uns qui se rapprochent ne sont pas loin. Il y a des types comme Pierre Michon, par exemple, qui sont très, très bons. Encore une fois, il y a des auteurs que j'aime beaucoup, des romans que j'aime beaucoup, mais à ce niveau-là, il n'y a pas des tonnes, quoi. Même étrangères.
Bon, on va s'arrêter sur ce constat, et tout en te disant qu'il y a des auteurs vivants, évidemment, à lire, comme ce
voilà.
Marcus Mal, par exemple.
Voilà. Mais à part moi, il vaut mieux lire eux. Merci de votre présence ce soir.